Il est 10h10 à Paris.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Donc n'hésitez pas, il vous manque des clés et des repères, eh bien appelez-nous. On vous répond tous les matins, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser au fléau des faux médicaments avec cette saisie record. En 9 jours, 113 millions de doses illicites ont été interceptées dans 14 ports africains. Alors, il y a des faux antalgiques, des antibiotiques, mais aussi des anti-inflammatoires fabriqués essentiellement en Chine, mais aussi en Inde. En 3 ans, écoutez bien, l'Organisation mondiale des douanes a saisi pas moins de 756 millions de faux médicaments en Afrique. Un trafic qui progresse, d'autant qu'il est beaucoup plus lucratif que le trafic de drogue. Alors comment lutter contre ce fléau? Qu'en est-il dans votre pays? On vous attend évidemment au standard. Il y a beaucoup de témoignages déjà, et notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Vos questions, des questions d'abord sur l'organisation État islamique. Jean Hubert, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Vous êtes à Brazzaville, nous vous écoutons.
Oui, merci Juan Gomez, c'est Jean-Hubert Ngokawele de Brazzaville. Une question, la France a toujours refusé de frapper la Syrie, puisque les djihadistes de l'État islamique occupent aussi bien l'Irak que la Syrie. Je me demande, la décapitation de l'otage français Hervé Gourdel en Algérie, va-t-elle modifier la stratégie de frappe aérienne pour lutter contre l'État islamique? La France pourrait-elle décider de frapper en Algérie et en Syrie?
En Syrie, effectivement. Nicolas Falaise du service international est à mes côtés. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On se souvient qu'après l'assassinat d'Hervé Gourdel, François Hollande a immédiatement rappelé sa détermination. La France poursuivra ses frappes en Irak. Elle continuera à lutter contre le terrorisme. Quid finalement de la Syrie?
Alors, pourquoi la France refuse-t-elle à ce jour de frapper en Syrie? On peut d'abord rappeler qu'il y a une différence en termes de droit international. Hein. Aucune résolution du Conseil de sécurité de l'ONU n'encadre les interventions étrangères aujourd'hui, ni en Irak, ni en Syrie. En Irak, on a une demande très officielle des autorités du pays qui ont explicitement appelé leurs alliés à intervenir militairement par voie aérienne pour stopper la poussée des djihadistes de l'État islamique. Mais en Syrie, de l'autre côté de la frontière, situation différentes, pas de demande officielle et même une situation juridiquement assez floue, hein, puisque le président syrien a affirmé après le début des frappes menées par les États-Unis et 5 pays arabes que son pays soutenait les efforts de lutte contre le terrorisme. Alors, face à cette situation juridique et politique différente, la France s'appuie sur cette distinction pour limiter son intervention à l'Irak, et on l'a vu, ce n'est pas le choix qui a été fait par d'autres acteurs, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, pardon, Bahreïn et le Qatar, eux ont commencé à bomber du côté syrien.
D'ailleurs, des frappes ont été menées encore cette nuit, la nuit dernière, par la coalition internationale, notamment dans le fief de l'organisation État islamique dans la province de Raqqa.
Absolument. Mais là où tous les pays sont d'accord, ceux qui interviennent seulement en Irak et ceux qui interviennent des deux côtés, c'est pour dire que la solution aujourd'hui en Syrie ne passe pas par Bachar el-Assad, qui ne doit pas être renforcé ou relégitimé au nom de la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Et pour l'instant, la politique des Occidentaux et de leurs alliés dans la région, c'est de renforcer l'opposition dite démocratique ou modérée, l'opposition syrienne qui se bat à la fois contre l'armée de Bachar el-Assad et contre l'État islamique.
Donc la France réticente à toute initiative qui pourrait donc bénéficier à Bachar el-Assad. Est-ce que la décapitation de l'otage français en Algérie peut modifier aujourd'hui la stratégie des frappes aériennes françaises en Syrie ou pas?
Alors citons le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui a répondu à cette question finalement il y a quelques jours. C'est une opération opportunité qui ne se présente pas aujourd'hui. Nous avons une tâche déjà importante à mener en Irak, mais c'est une question qui est posée. Donc la France ne ferme pas complètement la porte, même si à la fois officiellement et de ce qu'on entend en off, va pour l'instant dans le sens du maintien sur une opération exclusivement centrée sur l'Irak. Ce qui est clair également dans le discours officiel et non officiel que l'on entend en France, c'est que c'est une opération de longue durée qui a été entamée. Et donc, dans le cadre de cette opération qui risque de durer, on peut imaginer, et nous suivrons cela bien sûr, qu'à un moment donné ou un autre, la stratégie change.
Voilà, et quelques heures après justement les propos du ministre français de la Défense qui disait que la question se posait effectivement d'éventuelles frappes en Syrie, François Hollande a tenu à Paris un conseil de sécurité, et il a été décidé lors de ce conseil de sécurité que la France intensifierait son soutien aux forces de l'opposition syrienne.
Alors absolument, parce que en Irak comme en Syrie, l'aspect combat au sol passe par les acteurs locaux. Donc, on l'a dit, la France soutient et soutiendra l'opposition modérée syrienne. Et côté irakien, ça passe par un soutien de la coalition qui s'est montée pour lutter contre l'État islamique, les djihadistes de l'État islamique, un soutien à la fois à l'armée nationale irakienne et au Peshmerga, les forces du Kurdistan autonome irakien. Concernant la Syrie, c'est un pari assez risqué de soutenir l'opposition modérée et démocratique. Elle est aujourd'hui affaiblie, divisée. Et puis, on voit bien qu'il n'y a pas unanimité sur ce sujet, puisque des grandes puissances alliées du régime de Bachar el-Assad, l'Iran, la Russie, estiment que pour lutter contre l'organisation de l'État islamique, il ne faut pas soutenir l'opposition syrienne, mais il faut soutenir le pouvoir de Bachar el-Assad.
Voilà Jean Hubert pour les explications de Nicolas Falaise. Restez encore avec nous quelques instants, Nicolas. Nous accueillons Soto. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomen. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Lomé. Vous êtes au Togo. On vous écoute.
Oui, je voudrais poser une question concernant l'État islamique.
Oui.
Au fait, dans l'un de ses discours la semaine passée, le président français, François Hollande, nous invite à bannir de notre vocabulaire l'appellation État islamique. Bien que nous remplaçons cette appellation par Daesh. Je voudrais savoir quelle est la stratégie de François Hollande derrière cette appellation. Merci.
Alors, ne raccrochez pas, Nicolas Falaise. C'est vrai que la France a été l'un des pays occidentaux, pour ne pas dire peut-être le premier, à avoir officiellement adopté cette appellation de Daesh pour désigner l'organisation État islamique.
Alors, un peu de vocabulaire. Avant de s'appeler État islamique, le groupe s'appelait État islamique en Irak et au Levant, c'est-à-dire État islamique en Irak et en Syrie. En arabe, ça se dit « Idaoula al-Islamiyya fi al-Araq wa al-Shams ». Et les quatre lettres en arabe donnent l'acronyme Daesh. Alors, il est intéressant de noter que l'appellation Daesh n'est pas neutre. Elle a historiquement d'abord été utilisée par des opposants syriens non djihadistes dont on parlait il y a un instant, par certains médias de la région et aussi dans les zones syriennes contrôlées par l'organisation de l'État islamique. Et très vite, on a vu cette appellation d'initiale arabe devenir l'appellation dominante finalement dans la région, avec une connotation critique, péjorative du groupe. Et on peut noter que l'État islamique ne s'appelle jamais lui-même Daesh. Alors effectivement, récemment, les autorités françaises ont choisi de n'utiliser que l'acronyme de Daesh pour désigner le groupe. L'État islamique n'est ni un État ni islamique, a argumenté sur ce point le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Et donc, on voit bien qu'on est dans une communication politique, on peut même dire une communication de guerre, puisqu'il y a aujourd'hui des frappes, on en parlait à l'instant, une communication qui consiste à refuser à cette organisation la double légitimité qu'elle revendique, celle de l'État et la légitimité religieuse. Notons que la France n'est pas la seule, ou n'est plus la seule sur cette ligne. Par exemple, le 15 septembre dernier, s'est tenue à Paris une conférence internationale sur le soutien à l'État irakien, avec un mot d'ordre important de lutte contre ce mouvement djihadiste. 26 pays et 3 organisations internationales étaient représentées, et dans le communiqué final, le terme qui est utilisé, c'est Daesh.
Merci Nicolas Falaise. C'est tôt. Bonne journée à Lomé. Merci de nous écouter sur place, Lomé, où il est 8h20. 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions à la rédaction. Sonia Rollet du Service Afrique est à mes côtés. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir car nous avons reçu des questions concernant le général rwandais Kayumba Nyamwasa. C'est un dossier que vous suivez, dossier particulièrement complexe, et on comprend évidemment la nécessité pour certains des auditeurs, évidemment, d'avoir un éclairage particulier. Bonjour Élie.
Bonjour.
Bonjour, Radio France.
Vous nous appelez de Goma, vous êtes à l'est de la République démocratique du Congo. On vous écoute.
Oui, oui, effectivement, j'ai appris par la Radio France que la France et l'Afrique du Sud se remettaient à discuter au sujet de l'audition du général Kayumba Nyamwasa sur la justice française, par la justice française du temps. Mais je veux savoir pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud avait refusé, premièrement, d'extrader le général Kayumba Nyamwasa vers la France, et deuxièmement, pourquoi est-ce que tout d'un coup la France et l'Afrique du Sud se remettent à discuter de ce sujet? Et troisièmement, qu'est-ce qui a provoqué ça?
Alors, Sonia Rollet, la justice française veut effectivement entendre ce général, il est même sous le coup d'un mandat d'arrêt. Faut quand même rappeler que ce général est l'une des 9 personnalités mises en cause dans l'attentat qui a coûté la vie en 1994 au président rwandais Habyarimana.
Voilà, alors déjà c'est la première chose, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. D'ailleurs c'est le seul hein, de toutes les personnalités rwandaises à être encore sous le coup d'un mandat d'arrêt, puisque en 2010, en décembre, toutes les personnalités rwandaises qui étaient mises en cause eh bien, avaient été entendues, c'est un peu ce que veut là le juge Trévidic, avaient été entendues, formellement mis en examen, est-ce qu'il est libéré du mandat d'arrêt international. Là, dans le cas du général Kayumba Nyamwasa, jusqu'à présent en tout cas, enfin sur la première année en 2010 quand il a fui vers l'Afrique du Sud, les autorités françaises ne semblaient pas vraiment au courant qu'il était sur place et non finalement ne l'ont appris que quand il y a eu une tentative d'assassinat contre lui. D'ailleurs, les personnes qui étaient responsables ont été jugées dernièrement. Et donc, c'est à ce moment-là que le juge Trévidic, qui avait repris le dossier, a décidé de demander son extradition à l'Afrique du Sud. Évidemment, à ce moment-là, le général Kayumba Nyamwasa était sous protection des autorités sud-africaines par rapport à la tentative d'assassinat. Il y avait une procédure judiciaire qui était en cours. Est-ce que c'est ça qui explique qu'à un moment, ils n'ont pas pensé à l'extradition ou ils n'ont pas souhaité l'extradition?
Quand vous dites
«
ils », vous pensez les Sud-Africains, oui.
Voilà, que c'était beaucoup plus compliqué à partir de ce moment-là parce qu'il y avait des implications politiques, parce que ce général rwandais accusait Kigali d'avoir tenté de l'assassiner. Donc voilà, donc il y avait un contexte qui était comme ça un petit peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique du Sud extrade peu pour des raisons politiques, on va dire. Par exemple, le Libyen Bachir Salehe est en Afrique du Sud, ça on le sait. Il y a pourtant des mandats d'arrêt contre lui et il n'est pas recherché. Il y a d'autres personnalités comme ça qui sont jugées un peu sous protection des Sud-Africains. En revanche, là, pourquoi est-ce que maintenant ils examinent la possibilité de le faire entendre, c'est-à-dire de lui donner finalement la même possibilité qu'aux autres personnalités qui avaient été mises en cause par la justice française? C'est là où il y a un contexte autour de ça qui s'explique peut-être par le refroidissement des relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. La France était assez surprise d'ailleurs que l'Afrique du Sud dise examiner cette demande, puisque le juge Trévidic l'a faite depuis 2012 déjà, hein, cette demande d'audition, et n'avait jamais reçu de réponse. Et là, d'un seul coup, on se met à l'examiner. Alors, on sait que le 31 décembre 2013, il y a un opposant rwandais qui a été assassiné en Afrique du Sud, Patrick Karegeyak. En mars, les autorités sud-africaines affirment que le général Kayumba a été lui-même victime d'une autre tentative d'assassinat, qu'ils ont expulsé des diplomates rwandais, un diplomate burundais pour ça. On sait que c'est tendu.
En tout cas, ce général, lui, accepte de parler à la justice française. Vous l'avez rencontré, je crois, il y a un an,
oui,
pour RFI, en Afrique du Sud, et il s'était dit prêt à répondre aux questions de la justice française.
Il s'est dit après...
Sur l'attentat de 94.
Ah oui, il s'est dit prêt à répondre à la justice française, et non seulement ça, mais tout récemment, et je pense que tout ça est lié au fait que le dossier du juge Trévidic, normalement, l'instruction est clôturée. Donc là, il reste 3 mois au parti pour demander des actes supplémentaires, et qu'à ce moment-là, lui, en tant que partie mise en cause, a senti la nécessité de dire, de renouveler au juge son intention, non pas par voie de presse, mais plutôt par son avocat, de lui dire « je veux être entendu ».
Ouais. À suivre donc. Merci beaucoup Sonia Rollet. Élie, bonne journée à Goma. Merci d'écouter RFI sur place. Il nous reste encore 5 minutes. Une dernière question, elle nous vient de Bamako. Jakarija, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous avez des questions concernant la Chine et notamment une condamnation particulièrement sévère.
Oui, d'après un arrêt rendu par le tribunal de Urumqi, capitale de Xinjiang en Chine, l'intellectuel ouïghour Ilyam Tosi a été condamné à la prison à vie. J'aimerais savoir quel est le verdict le plus sévère infligé depuis des années à l'encontre d'un critique du gouvernement chinois. Comment expliquer un tel verdict? Que reproche le gouvernement chinois à Toti? Et enfin, pourquoi le gouvernement chinois a-t-il refusé l'accès à la salle d'audience durant ce procès à des ONG comme Human Rights Watch?
Effectivement, Ilham Toti, arrêté en début d'année, il vient d'être condamné à la prison à vie pour séparatisme. Il se voit d'ailleurs également confisquer la totalité de ses biens, laissant donc sa femme et ses enfants sans ressources. Marie Holzmann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sinologue. Vous êtes par ailleurs la présidente de l'association Solidarité Chine, qui est une association de défense des droits de l'homme. Vous connaissez Ilham Toti. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer. C'est vrai que ce verdict de la justice chinoise est particulièrement sévère. Même l'Union européenne a dénoncé une condamnation totalement injustifiée. Dites-nous en quelques mots, que lui reproche-t-on en Chine?
Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'inculpation, c'est séparatisme. Il se trouve que Ilham Toti est un intellectuel fort éloquent, mais c'est aussi un modéré qui s'est toujours adressé aux intellectuels chinois et aux Ouïghours dans des termes pacifiques, en disant qu'il fallait respecter les droits culturels, sociaux, économiques des Ouïghours, mais il n'a jamais appelé ni à la violence, ni à la rébellion, ni au séparatisme. Donc cette sentence est évidemment une réponse aux troubles qui existent au Xinjiang en ce moment. Il y a eu beaucoup de mouvements.
Marie Holzmann, les Ouïghours, ce sont des musulmans turcophones qui vivent justement précisément dans cette région du Xinjiang qui se trouve au nord-ouest de la Chine.
Alors, si vous permettez, je vais vous faire un petit rappel. Le Xinjiang, c'est à peu près la surface de l'Iran. C'est environ 25 millions d'habitants. 45% d'entre eux sont des Ouïghours et 40% sont des Han, des Chinois, si j'ose dire, installés officiellement. On pense qu'en dehors de ces 40% de Chinois déclarés officiellement, il y a aussi de nombreux militaires et de nombreux migrants qui viennent notamment travailler durant tout l'été. Donc ce qui intéresse les Chinois au Xinjiang, ce sont évidemment les ressources naturelles de cette région, c'est-à-dire l'uranium, le pétrole, la possibilité de se livrer à toutes sortes d'expériences comme ils l'ont fait dans le temps pour les recherches nucléaires, puisque c'est un vaste désert. Donc c'est un endroit qui est important, c'est une partie du territoire auquel les Chinois tiennent beaucoup, mais ils n'ont nullement l'intention de respecter l'autonomie qui avait été prévue, autorisée par le président Mao au début de la fondation de la République populaire de Chine.
Mais pourquoi s'en prendre à ce point-là à Ilham Toti, qui, vous le disiez, est un intellectuel, mais un intellectuel modéré, c'est-à-dire qu'il n'a jamais, contrairement à d'autres Ouïghours, réclamé l'indépendance du Xinjiang? Comment peut-on expliquer ce verdict?
Je vais vous répondre par le biais, et je reviens à la question de votre auditeur, c'est: est-ce que d'autres intellectuels ont été condamnés de la même façon? Alors, il me vient en mémoire, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup plus que ça, la sentence de Tenzin Delek Rinpoche, qui est né en 1950 et qui a été condamné à mort en 2002, sa sentence commuée à vie en 2005. C'était un très respecté moine, enfin il est toujours vivant, c'est un très respecté moine tibétain, mais qui a été connu pour toute son action en faveur de la culture tibétaine, en faveur des plus démunis, des plus défavorisés, et c'était aussi un grand pacifique qui a été accusé de terrorisme. Et je pense aussi à Wang Bingzhang, qui est né en 1947 et qui a été condamné à vie pour terrorisme et espionnage. En fait, il avait tenté de créer deux mouvements démocratiques à l'intérieur de la Chine, une fois en 1989 et une fois en 1998. Il a essayé, c'est un émigré, il a quitté la Chine depuis 1988, il a essayé de rentrer par le Vietnam en juin 2002. Là, il a été saisi par la police chinoise et il est en prison depuis. Donc, vous voyez, ceux qui sont ciblés sont ceux que le gouvernement chinois voit comme de potentiels leaders d'opposition au sein de la population chinoise.
Et c'est le cas donc pour Ilham Toti, condamné, rappelons-le, la semaine dernière, à la perpétuité. Merci beaucoup, Marie Holzmann. Le temps passe très très vite. En tout cas, merci d'avoir été avec nous quelques instants pour répondre à Jakarija. Restez avec nous dans un instant, le journal, le point complet sur l'actualité. Dans 10 minutes, notre débat sur le fléau des faux médicaments.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.